RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
La suite des grandes gueules sur RMC, la radio RMC Story, la télé jusqu'à midi avec autour de la table aujourd'hui Maître Sandrine Pégan, oui. Notre avocate, le docteur Jérôme Marty qui n'était pas venu depuis un moment, depuis Fronton dans le sud-ouest.
Il nous a manqué.
Oui, nous a manqué. Ça fait loin.
Didier Giraud,
les carburants sont chers quoi, pour un médecin.
Didier Giraud, l'agriculteur de Saône-et-Loire est avec nous également. Didier, allez, on accueille notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
David Lisnard, bonjour.
Bonjour.
Ou plutôt Buenos Dias, puisqu'on vous présente comme étant le Javier Milei de la Côte d'Azur.
Moi, c'est
du nom du président argentin.
Plutôt buongiorno, parce que je suis quand même méditerranéen avant tout, quoi.
Mais si, quand on vous dit ça, ça vous agace ou vous assumez ce lien?
Ça me paraît bizarre, voilà. C'est-à-dire que le lien, il est dans une dénonciation commune des excès de l'étatisme.
Vous avez sorti une broyeuse, ouais, la vidéo a fait beaucoup de bruit, une broyeuse pour broyer des documents administratifs qui nous empêchent
en quelque sorte. Et d'ailleurs, tout le monde nous donne raison depuis, y compris le président de la République qui réunit des maires la semaine dernière.
C'est vrai.
Et qui, de façon très populiste, hein, pourrions-nous dire.
On peut le dire.
Parce qu'on ne se prive pas de me le dire de temps en temps, dit, vous vous rendez compte, on a refait Notre-Dame en 5 ans. Et il faut 5 ans pour une autorisation de poulailler. Oui, on ne cesse de le dénoncer, cela. Et la cause de ces excès de délais qui coûtent des nerfs, qui coûtent de l'argent, qui coûtent des vocations, qui font régresser le pays, qui sont au détriment de la prospérité, du pouvoir d'achat, c'est précisément les contradictions bureaucratiques. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas de codification, il faut évidemment des normes, il faut une codification, il faut du droit. Mais qu'aujourd'hui, on est dans un excès de droit et que notre société, elle est déséquilibrée et que cette bureaucratie est devenue un fléau. La bureaucratie, c'est l'impôt invisible, que personne ne vote, mais que tout le monde paie. Et ça, il faut en finir
et
avec
ça. Et de façon indirecte.
Et de façon indirecte, tout
vous
le
monde. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, mais combien avant vous d'hommes ou de femmes politiques ont promis justement de simplifier, de réduire, de diminuer cet état obèse, et puis finalement, on s'est rendu compte que ça n'a jamais été fait?
Oui, vous avez raison, c'est la vraie question. Et c'est aussi pour cela que j'y vais. C'est-à-dire que moi, je viens d'un monde du petit commerce, et puis j'ai eu une montée progressive dans la chose publique. Je suis maire, j'ai été avant adjoint, j'ai dirigé des commerces et des entreprises. Et à chaque fois qu'on m'a parlé d'un choc de simplification, c'est la grosse formule marketing pas très chère, à chaque fois, à la fin, c'était plus compliqué. Parce que, vous voyez, et on le voit dans les politiques aujourd'hui, qui sont des gens souvent intelligents, qui aiment le pays, je leur fais pas du tout ce grief, le grief inverse. Mais ils ont été formés pour produire de la norme, de la procédure. Or, ce que l'on apprend, c'est qu'il y a un ordre spontané qui est le plus efficace. Qu'on gagne beaucoup plus dans la vie en faisant confiance que dans la défiance, que le rôle de l'État est très important pour intervenir a posteriori pour sanctionner, mais pas a priori pour entraver. Donc c'est un changement total de logiciel, et c'est pour ça que je me suis émancipé de tout parti politique, que j'ai créé Nouvelle Énergie, parce que c'est une façon de gérer différemment, d'accepter que tout n'est pas politique, que tout n'est pas public. C'est très particulier en France. Et je veux juste terminer là-dessus. Quand les politiques qui sentent les tendances, hein, on entend à nouveau parler de lutte contre la bureaucratie, de Monsieur Attal, Monsieur Bardella, etc. Ils disent des choses justes. Mais objectivement, c'est comme si vous demandiez... ils ont tous été formés de la même façon. Moi, je dis, il faut pas se bercer d'illusions, pour faire un jeu de mots un peu lourd d'ailleurs, mais qui est parlant. Et c'est comme si vous demandiez, si vous leur demandez de débureaucratiser, c'est comme si vous demandiez à un dealer de lutter contre le trafic de drogue. Ils ont été formés comme cela. Et on ne peut pas débureaucratiser. Alors pourquoi d'abord? Pourquoi il faut débureaucratiser? Parce que si vous voulez plus de médecins mieux payés, si vous voulez des agriculteurs qui sont considérés comme des vrais chefs d'entreprise et qui gagnent leur vie, si vous voulez des professions libérales qui aussi prospères et plus prospères que dans les autres pays, bon, etc. Vous devez avoir, si vous voulez, plus de policiers la nuit. Moi, j'ai une ville compliquée, j'ai une ville très contrastée, une ville que j'adore, mais il faut la tenir. Or la nuit, on a quasiment plus de policiers nationaux sur certaines périodes. Il y en a même plus. Enfin, il n'y en a plus du tout. Dans le pays qui paye le plus d'impôts, le plus de charges. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a ce paradoxe d'avoir un record de dépenses publiques et d'avoir des services publics qui se dégradent. Pourquoi ? parce qu'entre-temps, il y a un détournement d'argent public par les procédures et la bureaucratie.
Et par où il part dans la bureaucratie, cet argent public.
Si vous voulez plus de policiers, des soignants mieux payés à l'hôpital, des profs bien payés, de bon niveau, etc., il faut qu'il y ait moins de bureaucrates. Si vous voulez qu'il y ait moins de bureaucrates, il faut qu'il y ait moins de bureaucratie. Si vous voulez qu'il y ait moins de bureaucratie, il faut qu'il y ait moins de règles. Il faut qu'il y ait une dérégulation. Et c'est là que s'arrêtent les politiciens. Ouais, ils ne vont pas jusqu'à la dérégulation.
Monsieur Lisnard, pardonnez-moi, mais on entend tout ce que vous dites. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous taxe un peu avec cette étiquette de populiste.
Ah, ça pourrait être taxé, mais on est tous taxés ici. Oui, je vous rassure, on est le pays le plus taxé au monde.
Il y a de jolis slogans qui sortent de votre bouche, hein, j'en conviens, mais sauf que où sont les propositions concrètes? Parce que donc là, ce sont des slogans, selon mon avis. Et puis finalement, d'ailleurs, vous dites oui, donc les bureaucrates, à chaque fois vous employez des termes, mais il faudrait peut-être un petit peu être plus proche du peuple.
Un exemple concret.
L'exemple concret,
vous me sortez, un prêt-à-parler là.
Non,
vous,
du tout, du tout.
Vous avez préparé votre saillie.
Pas du tout.
Mais j'accepte.
Pardonnez-moi, mais quand je regarde aussi vos interventions sur divers médias, à mon avis, peut-être aussi changer de discours, parce que sur le fait que vous soyez parti des LR, c'est toujours la même chose.
J'essaierai de suivre vos conseils. Mais en attendant, si vous voulez, par exemple, quand j'étais à la mutualité en janvier, j'ai détaillé pendant plus d'une heure, je ne sais pas si vous étiez présente, les baisses de dépenses, donc je l'affirme, je l'ai dit, y compris sur la retraite, je prends des positions que d'autres ne prennent pas, voilà. Donc je les détaille, parce que vous ne pouvez pas lutter contre la bureaucratie si derrière vous ne remettez pas en cause le système tel qu'il a été conçu. On est dans un modèle qui a très bien fonctionné, qui a été l'État-providence, qui a été un modèle de développement.
Il n'est plus adapté
Mais non, parce qu'il reposait sur une démographie galopante. On faisait beaucoup plus d'enfants, donc on élargissait la base de cotisation. Sur une immigration qui est une réalité, mais maîtrisée, qui est une immigration essentiellement de travail. Or, aujourd'hui, c'est une immigration non maîtrisée de peuplement. Et troisièmement, sur des gains de productivité. Voilà. Donc, c'est, typiquement, je cite souvent cet exemple. Un smicard qui gagne 1440 euros net par mois aujourd'hui, si vous voulez le passer à 2000 euros net dans votre boîte, donc il va gagner 560 euros de plus. Vous êtes obligé en tant qu'employeur de sortir 1500 euros de plus. Voilà. Donc, il faut diminuer. Trois fois. Donc, évidemment, si vous ne diminuez pas, par exemple, il faut désindexer les retraites au-dessus du revenu médian. C'est entre 4 et 5 milliards par an d'économie, au moins dans un premier temps, pour basculer vers de l'épargne, etc. Il faut. Et ça, les gens le comprennent très bien. Le salarié. Mon projet, c'est de.
Le salarié ne comprend pas pourquoi il y a autant de différence entre le brut et le net.
Mais bien sûr. Donc,
mais vous n'êtes pas le seul à le proposer, ça, monsieur Lisnard.
Non plus.
Oui, mais peut-être.
Non, mais attendez, il y a Retailleau qui le propose.
C'est une vraie question. Qu'est-ce qui vous différencie?
Les gens ont entendu qu'il y a eu des avancées sur la bureaucratisation.
C'est vous enfoncer des portes ouvertes.
Mais tant mieux, parce que quand je parlais de retraite par capitalisation il y a deux ans, il y a trois ans, y compris au sein de LR, on me dit il ne faut surtout pas en parler.
C'est un tabou.
Pas possible. Aujourd'hui, tout le monde le reprend.
Mais je vais prendre un exemple.
Quand je dis qu'il faut supprimer le principe de précaution de la Constitution, j'espère que ça va être repris. Quand je dis qu'il faut supprimer la planification scolaire, qui est une aberration, qui fait que les plus pauvres sont dans des écoles ghetto et qu'on sacrifie des dizaines de milliers de gamins, personne ne le dit. J'espère que ça sera repris. Moi, je veux gagner et je veux faire gagner les idées, je veux faire gagner la France.
David Lisnard, une question concrète.
J'ai pas le monopole de la bonne idée, voilà.
Le gouvernement nous dit la crise actuelle provoquée par la guerre au Moyen-Orient coûte à la France 4 à 6 milliards d'euros. Il faut trouver donc 4 à 6 milliards d'euros, là. C'est ce que vient de dire le gouvernement, Roland Lescure, le ministre de l'économie. On les trouve où, ces 4 à 6 milliards d'euros?
Aujourd'hui, on a 900 milliards de dépenses sociales. Donc c'est un tiers du PIB, 900 milliards. De loin, le pays au monde qui a le plus de dépenses sociales. Et pourtant, on n'a jamais autant eu de SDF dans les rues, hein. Et ça, je peux vous en parler longuement. Enfin, moi, je suis dans une ville qui a un taux de pauvreté élevé historiquement. Hein. C'est le double de l'endroit où on se trouve ici.
Contrairement à une idée reçue sur Cannes.
Oui, une idée reçue de certains.
C'est la Croisette, etc.
Et parce que c'est ceux qui viennent 10 jours dans l'année qui restent sur la Croisette, qui s'imaginent que les Canois montent les marches toute l'année avec des stars. Enfin, c'est pas grave. C'est une ville cosmopolite, c'est une ville d'immigration pauvre depuis très longtemps. Donc, si on n'est pas capable, comme dans n'importe quelle boîte, comme moi, je l'ai fait dans mes. Parce que vous me parliez, moi je viens d'un monde du commerce, j'ai vendu mes derniers commerces aujourd'hui, mais c'est ma réalité, c'est pas un storytelling, c'est pas un truc que je m'invente, ça a été ma vie, voilà. Et si vous n'êtes pas capable de réduire de 5%, 10% une dépense, c'est même pas la peine de se présenter pour diriger un groupe, ou une collectivité, ou une entreprise, c'est absurde. Aujourd'hui,
ça s'appelle l'équilibre.
Donc vous dites 4 à 6 milliards, c'est rien quand on dépense 900 milliards pour le social.
Ça me paraît une telle évidence, quoi.
Ça a l'air d'être un casse-tête pour le gouvernement. Faire des économies, regardez l'histoire du budget, c'est un casse-tête. On a même été obligé de suspendre la réforme des retraites.
On est passé du quoi qu'il en coûte, n'importe quoi qu'il en coûte, et après c'est toujours l'impôt et le rabot. Et ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que le rabot, il est absurde parce qu'il crée de l'injustice dans les services. Vous avez des fonctionnaires maltraités, etc. Et on crée de la fiscalité supplémentaire. On a le record du monde. C'est pas moi qui l'invente. Des impôts et des charges. Ce qui crée, ce qui se fait au détriment de l'activité économique. Donc, c'est pour ça qu'il faut, il est temps aujourd'hui, comme en 58, avec le plan Rueff et avec De Gaulle, d'avoir un plan de très très massif de réduction de la dépense, comme ça a été fait en 58, de rétablissement des comptes publics. C'est pas une fin en soi, c'est
mais
pas
une vue comptable. Mais on peut être élu en annonçant quand même des mauvaises nouvelles.
Mais c'est pas des mauvaises nouvelles. Quelle est la mauvaise nouvelle?
Si vous allez réduire les dépenses publiques, il y a des Français qui vont en pâtir.
Non, pas, mais c'est, moi je suis pas pour le sado-réformisme, ce que je disais à l'époque à François Fillon d'ailleurs. Quand vous dites, regardez, vous réduisez, vous avez 1200 organismes publics, des agences qui ont été créées depuis 25 ans. Donc, il ne s'agit pas de toutes les supprimer. Dans un état de droit, on a besoin de garder quelques agences hors gouvernementales. Mais 1200 qui ont été créées. Vous avez 7 agences environnementales. Aucune de ces agences ne peut à elle seule vous autoriser votre projet, mais chacune peut vous planter votre projet. Un agriculteur le sait, un industriel le sait. Vous faites une école, vous avez 1800 pages de notices thermiques pour faire une école aujourd'hui en France. Hein. Donc, la direction régionale de l'environnement, il faut la supprimer. La MRAE, il faut la supprimer. C'est, je vous épargne les acronymes. Vous, ces organismes consomment aujourd'hui.
Bien sûr.
Il faut une seule agence environnementale avec quelques règles claires, etc. Ces organismes consomment 90 milliards d'euros. C'est pas des dépenses sociales. 90 milliards d'euros par an de fonctionnement.
Oui, mais quand
les agences, c'est 80 milliards par an.
Mais on regroupe la spécialité française.
Mais
c'est
pas de regrouper.
C'est parfois fusionner et de pas faire de d'économie derrière. Sûr, par exemple, les régions, on a simplifié avec François Hollande. Finalement, ça
non, mais monsieur Félicitat, reste compliqué.
On a compliqué parce qu'on pense que le grand ensemble, en France, on a été formé dans un esprit que j'adore, mais qui est déductif. Et on pense que plus c'est grand, mieux c'est. Or, c'est faux. Il y a des grands ensembles qui peuvent être performants. On a besoin de par exemple, on parle aujourd'hui d'Union européenne dans le monde multipolaire, etc. Il faut réinventer cela. C'est une évidence. Mais la vie, c'est pas ça. Donc, quand vous gardez les mêmes règles, les mêmes obligations normatives, et vous créez un gros machin, vous éloignez les gens de la décision. Et ça ne fonctionne
mais
pas.
Mais si vous permettez, monsieur Lister, il n'y a pas que ça. D'un côté, il y a effectivement l'explosion des normes qui ralentissent le fonctionnement du pays. Et puis, on a complètement perdu la spécificité française, qui était un État protecteur, une administration facilitatrice. À la place de ça, on a un État qui détruit, et une administration qui n'est plus du tout facilitatrice, mais qui, au contraire, impacte. Et dans la santé, je vous donne un exemple. Nous, moi, je dirige un établissement de soins de suite. On a eu une modification de nos tarifs. Et chaque année, au 1er janvier, les tarifs changent. Et l'administration, qui est pour nous l'assurance maladie, nous impose de ne pas facturer pendant X semaines, voire mois, tant que ces logiciels ne sont pas prêts à encadrer les nouveaux tarifs. Et en ça, elle nous détruit. Je vous lis un mail qu'on m'a envoyé hier, qui est très très significatif. On nous dit, c'est la CEPAM qui nous parle, le changement de tarif pose un problème pour les séjours SMR, car la règle de calcul dans notre applicatif n'est pas conforme à la réglementation. Une correction du code est en cours. Les factures bloquées devraient pouvoir être transmises mi-mai. Ah. Voilà. Et donc, on nous tue. Et donc, il faut non seulement, si vous voulez, que baisser effectivement le nombre de procédures et de normes, mais il faut imposer à l'administration qu'elle soit facilitatrice.
Oui, mais ça fait 30 ans.
Elle est là pour servir. Jérôme, elle n'est pas là pour détruire.
Ça fait 30 ans.
Et le rôle du politique.
De simplifier.
L'administration est un outil du politique. Et donc, en ça, le politique doit imposer à l'administration de ne pas détruire ses affiliés. Sinon, c'est la fin de tout.
Non, mais vous prêchez un convaincu, effectivement, ça fait.
Mais quels sont les freins? Puisque, comme le dit Sandrine, et je le disais, c'est vrai que ça fait des années qu'on nous promet de simplifier. Et on voit bien qu'on n'y arrive pas. Quels sont les freins? Ce sont les administrations qui freinent, par exemple. Est-ce que le politique a encore le pouvoir de changer les choses?
Alors, il y a beaucoup de questions dans cette question-là, mais c'est très juste. C'est-à-dire que, alors, premièrement, c'est justement parce que ça fait 30 ans qu'il ne faut pas accepter ça comme une fatalité. Tous les pays ont eu ces effets-là. Alors, nous, c'est amplifié parce qu'on est historiquement très centralisateur. C'est l'État qui a fait la nation en France. Donc, on est très centralisateur. Hein. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. C'est obsolète. Voilà, mais la Nouvelle-Zélande a su se réformer il y a 40 ans. Oui. L'Allemagne a su se réformer. L'Angleterre a su.
Le Canada
donc,
aussi.
Donc, c'est notre cycle à nous aujourd'hui. La Suède, le Danemark, etc. Donc, il faut pas tomber dans le fatalisme. Autrement, on arrête, on reste chez soi, on commente, on râle, et puis voilà. Deuxième élément. Comme la France est très centralisée, on a une belle administration, on a une belle fonction publique, hein, de gens plutôt bien formés, honnêtes, qui aiment le pays. Mais on a toujours une tendance à produire des schémas directeurs. Dès qu'il y a le Covid a été le révélateur absolu de cet absurdistan. absolue. C'est-à-dire que, et ce qui fonctionnait, c'était les initiatives locales. On arrivait à acheter des masques, on arrivait à vacciner. Et tous les schémas d'État, on nous disait, attendez le schéma, on n'attendait pas, on faisait quand même, et ça marchait. Mmh. Et le schéma, il sortait une fois que la maladie était plus là. Voilà. Et c'est donc une question de mentalité, de centralisation de la formation, de fait
confiance.
Que, ouais, de confiance, confiance. Et de culte des grands ensembles. On croit que plus c'est grand, plus c'est neutre. Mais c'est faux. Autrement, l'Union soviétique existerait toujours. Voilà. La Corée du Nord serait plus riche que la Corée du Sud. Alors, c'est le contraire. Ça ne fonctionne pas. Et c'est contre-intuitif, ce que je dis très souvent. On a l'impression que l'État va nous protéger par la règle. Il faut des règles. Il faut un État fort.
Oui, mais alors, les Français, ils sont aussi règles. Quand même habitués à être protégés.
Il faut
ils sont habitués à un État qu'on appelle un État nounou, qui s'occupe de notre bien-être, ce qu'on doit manger, ce qu'on doit porter comme vêtements, comment on doit se chauffer, comment on doit rouler. Je veux dire, dans toutes les étapes de notre vie, l'État doit nous dire ce qu'on doit faire.
D'ailleurs, c'est insupportable.
Et ça marche pas.
Et moi, ce que je voudrais porter, c'est la voix du pays réel, hein, c'est-à-dire cette France qui est très créative. Il y a beaucoup de créativité en France. Il y a beaucoup d'esprit entrepreneurial. C'est très développé en réalité, plus que jamais. Et là-dessus, les Français, je suis pas d'accord avec tout à fait ça. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est que les policiers les protègent quand ils se font agresser. Mmh. Voilà. Mais
ça,
pas qu'on leur envoie le énième CERFA, lorsqu'ils essaient donc on a remis les CERFA d'or récemment avec Nouvelle Énergie. C'est Agnès Pannier-Runacher qui a eu le super CERFA d'or pour l'obligation d'installer, c'est un décret qui est sorti cet été, des toilettes avec lavabo sur les barges d'ostréiculteurs. Voilà.
On en avait parlé dans les grandes gueules.
C'est magique.
Et donc, là-dessus, on est, vous savez, quand Napoléon refait le droit et fait la codification, il y a Portalis, il écrit le droit sur des principes généraux du droit. Et aujourd'hui, il faut revenir à ça. Donc, il faut attaquer l'Himalaya sous plusieurs faces. D'abord, il faut transférer le pouvoir d'application des lois au pouvoir local. Et qu'on soit en compétition et qu'on rende des comptes là-dessus pour faire des choses concrètes. Et les gens nous virent si on n'est pas capable de rendre la loi applicable. Deux, il faut évidemment enlever du stock. Donc il faut que sous l'autorité du président de la République ou du Premier ministre, il y ait une équipe avec des chefs d'entreprise, avec des hauts fonctionnaires qui regardent toutes les contradictions normatives. Dans la même semaine, quand vous êtes maire de votre commune, vous pouvez recevoir une interdiction de construire parce qu'il y a un plan de prévention au risque en gestation, et ce qui est logique, et une obligation de construire 400 logements sociaux au titre de la loi SRU.
Voilà. Alors, on va se retrouver dans un instant,
David. Il faut un moratoire sur la norme. Toute norme contradictoire, on ne peut pas imposer en même temps une obligation et une interdiction.
On va se retrouver.
Détailler tout cela et ça se retrouve dans un ouvrage qui est sorti il y a quelques temps qui s'appelle Ainsi va la France, manifeste libéral.
On va continuer d'en parler. Votre regard également sur la situation internationale. Parce que si vous êtes président de la République, il faudra peut-être aussi dire à Donald Trump certaines choses, certaines vérités. Vous nous direz ce que vous en pensez de ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Et puis des questions Didier Giraud, Sandrine Pégan et le docteur Marty. À tout de suite sur RMC, RMC Story avec David Lisnard, le maire de Cannes.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
La suite des Grandes Gueules sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, avec aujourd'hui Sandrine Pégan. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai la tablée. Ils se sont trompés, ils ont mis la tablée de demain sur le programme. Donc mécaniquement, je lis.
Donc
ce n'est pas Zora, c'est Sandrine Pégan.
Et bien entouré, mon beau.
Je suis Marty Didier Giraud, je ne suis pas aidé par cette équipe de bras cassés. Et David Lisnard est face au GG. David Lisnard, question d'actualité, le carburant. Certains distributeurs nous disent qu'il va falloir s'habituer à un carburant autour 2 euros, parce que malheureusement, ce qui se passe au Proche-Orient n'est pas prêt de se terminer. Le temps que tout revienne à la normale, ça va prendre du temps. Pour l'instant, ce sont des aides très ciblées qui sont proposées par le gouvernement. Trop ciblées, disent certains. Qu'est-ce que vous feriez à leur place?
Je suspendrai le certificat d'économie d'énergie. Ça fait plusieurs semaines que je le propose. C'est une baisse immédiate de 17 centimes par litre. Et surtout, ça n'a pas d'incidence budgétaire. C'est-à-dire que Bercy est pris à son propre jeu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un prélèvement obligatoire sur le litre de carburant qui sert à ma prime rénov', etc. Mais ce n'est pas considéré comme prélèvement obligatoire, comme tout ce qui est éco-organisme, prélèvement d'éco-organisme, alors que c'est un prélèvement obligatoire. Cette obscure clarté, quoi. Voilà.
Et, CVO.
Et donc, là, je crois qu'il faut hiérarchiser. Tant que le baril est à ce cours et qu'il y a cette situation, on peut le suspendre provisoirement.
Oui, mais le gouvernement dit, on peut pas retirer cet argent, on en a besoin pour électrifier le pays.
C'est un choix. Donc moi, c'est ce que je ferai, c'est pour votre question. Parce que le reste, le gouvernement est prisonnier des renoncements depuis 30 ans à voter des budgets équilibrés, quoi.
Voilà, on n'a pas de marge de manœuvre.
Pas de marge de manœuvre. Et moi, c'est tout ce que je me suis attaché à faire quand on m'a confié la mairie dont je m'occupe, ça a été de retrouver des marges de manœuvre. Et on a fait un énorme travail d'optimisation. On a réduit les effectifs de presque 20% maintenant. On a essayé de motiver les bons. Et on a baissé la dette. Il n'y a pas eu de transfert de dette. C'est pas du transfert bilan. Dans ma commune, on a baissé la dette de 82 millions d'euros en 11 ans. En 12 ans, pardon. Et on a baissé la fiscalité de 3,6%. On a multiplié par 10 la capacité d'autofinancement. Donc, 99% de mon temps, moi, c'est ce qui ne se voit pas. C'est de gérer comme dans une entreprise pour essayer de motiver les troupes, des marges de manœuvre. C'est comme ça qu'il va falloir gérer.
Quel est votre regard sur cette guerre en Iran?
Mon regard, c'est une question très très ouverte. Hein. Le regard, c'est que je souhaiterais ardemment que le régime des gardiens de la Révolution s'effondre, qui est un des régimes les plus abominables au monde, d'abord pour son peuple, 35 000 morts en 48 heures, massacrés par ses dirigeants, mais aussi pour la sécurité du monde. C'est-à-dire que ce régime-là a tué des Français, a fait des attentats dans le monde entier, alimente l'international islamiste qui fait des dégâts partout. Mais entre les vœux pieux et la réalité, il y a tout un monde que découvrent manifestement les États-Unis aujourd'hui. Et donc, en l'occurrence, là, ce qu'il faut arriver à faire, c'est que au moins une paix soit obtenue qui permette de respecter certains fondamentaux, la dénucléarisation militaire de l'Iran, c'est incontournable. Le respect de la sécurité des pays de la région, Israël, mais aussi les Émirats Arabes Unis, enfin, qui sont nos alliés d'ailleurs, les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn. Et le troisième élément, c'est évidemment la liberté de circulation sur le détroit d'Ormuz. La France avait l'opportunité de prendre initiative. L'Angleterre avait réuni plus d'une quarantaine de pays. Il y a eu une initiative à l'ONU de Bahreïn. Je crois qu'on pourrait constituer une majorité à l'ONU pour avoir une force de libération des flux sur le détroit d'Ormuz. Malheureusement, on est passif parce qu'on n'a plus de moyens. Quand vous êtes surendetté et surfiscalisé et que vous pouvez même pas gérer une crise énergétique, mais comme ça sera, la prochaine sera pareille, il y aura autre chose. Vous vous rendez compte qu'avec nos impôts, cette année, nous allons payer 8 fois plus d'intérêts de la dette, 7,5 exactement, 8 fois plus hein, que tout le budget de la justice. Et on manque de greffiers dans tous les ressorts. On manque de parquetiers, etc. Donc, on est au bout de... Je ne cesse de dire ça. Ce système d'État-providence est fini.
C'est mais bon. En même temps, par exemple,
il faut le substituer à l'État-performance.
Il faut augmenter le budget de la défense, en tout cas, la
volonté
de ceux qui le gouvernent. Donc, il faut bien de l'argent, là.
Plus l'État a dépensé d'argent sur ce qui n'est pas ses missions, nous dire ce qu'on doit faire tous les jours, moins il a dépensé sur ce pourquoi il a été inventé, c'est-à-dire le régalien. La justice, la diplomatie, l'armée, la police, la gendarmerie. Donc c'est tout cela, on est à la fin d'un cycle, il faut inventer un autre cycle.
Question de Didier Giraud, notre agriculteur.
Oui, alors moi je suis assez séduit par le discours, même si j'ai une analyse un peu différente de la vôtre, et je pense que un des mots de notre pays, c'est aussi depuis que les hommes politiques sont plus des gens issus du rang, qui sont passés par... qui sont passés par l'entreprise, qui, enfin voilà, pendant les 30 glorieuses, les hommes politiques, c'était des anciens résistants. Aujourd'hui, on devient homme politique quand on a été DIRCAB, on a fait l'ENA, après on a été DIRCAB. Donc à un moment donné, sur la simplification administrative et le fait de désinguer l'administration, ça change un peu le rapport qu'on a, et moi je regrette le temps des députés-maires. Cette parenthèse étant fermée, moi j'aimerais savoir comment vous allez faire. Parce que vous êtes comme les œufs, vous êtes à peu près une bonne demi-douzaine et bientôt une douzaine de candidats déclarés dans la droite, dans la droite, on va dire, qui va entre Marine Le Pen jusqu'à Attal. Comment vous allez faire pour tous exister? Parce que il peut, le dernier qui va se maintenir, il va prendre la responsabilité peut-être. D'éliminer la droite classique, on va dire, du second tour de la présidentielle. Alors j'ai bien compris que vous y êtes pour faire exister des idées qui sont nouvelles, mais comment vous allez faire pour exister là-dedans, quoi ?
David Isnard.
Moi, la seule façon, c'est la sélection, et c'est donc la compétition. Voilà. Je n'en vois pas d'autres.
Ce sont les sondages qui vont
Départager. Ça veut dire que avant le dépôt des candidatures, ceux qui seront les moins bien placés dans les sondages.
Non. La compétition, pour moi, elle doit se faire par un choix populaire. Parce que si
une primaire.
Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. À une époque, on pouvait se permettre d'aller à plusieurs au premier tour.
Ouais.
Donc, on allait directement en demi-finale. Hein, Chirac, Balladur, Barre, Chirac, etc. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'il y a un éclatement de l'offre. Bon. Donc, il faut organiser un quart de finale. Je ne vois pas d'autre solution. Viens qui veut. vote qui veut.
Et mais la primaire, vous allez d'où à où? Parce que c'est ça le problème.
Viens qui veut, vote qui veut. Il faut surtout pas en définir le périmètre.
Ah, pas de périmètre.
Mais non, parce que ceux qui sont de droite, donc Glucksmann ou Mélenchon vont pas venir. Le Pen ne viendra pas, parce que
Attali est droite
de gauche. Bah, ça, il faut lui poser la question. Moi, je ne crois pas. Pour moi, il n'est pas de droite, ouais. Mais qu'importe s'il se pense de droite.
Ça va obliger à se démasquer.
Parce que, exactement, ça va être un formidable
révélateur. Bardella est de droite.
En tout cas, hier, il l'a dit. Mais Marine Le Pen dit que non. Donc, ils font du en même temps, au RN. Mais,
Et puis,
Bardella, il dit pas la même chose que Tanguy, etc. Donc, ils ont leurs problèmes aussi. Mais ils sont à 35%. Donc, de toute façon, ils n'ont surtout pas intérêt à venir dans une primaire. Ils viendront jamais dans une primaire. Non. Donc, la messe, elle est dite là-dessus. Et, il y a rien de, moi, enfin, on peut pas être, pourquoi ont-ils peur de la compétition? Et ça va être un révélateur, parce qu'il faut éviter la division qu'il faut perdre, mais il faut éviter aussi la compromission des notables. C'est-à-dire l'arrangement qui fait qu'on sort. Alors, ouais. On va mettre ça parce que ça fait plaisir aux gaullistes sociaux, on va faire ça pour plaisir aux libéraux.
Oui,
ça,
bah, c'est après, voilà. Il faut s'engager défendre celui qui gagne la primaire.
Oui, non, ou à se taire.
On se rappelle.
À se taire. Pas définitivement.
On se rappelle comment ça s'est passé la dernière fois dans votre famille.
Jusqu'au premier tour. Mais la dernière fois, contrairement à ce qu'on pense, il y a eu très peu de divisions. Il y a eu très peu de divisions. Et en politique, il y a un truc que j'ai constaté, moi qui viens du monde du commerce, c'est que c'est pas tellement l'union qui fait la force, c'est la force qui fait l'union. Voilà. Quand vous arrivez à enclencher quelque chose, les gens, ils viennent derrière vous. Et donc, je ne vois pas d'autre solution que cela.
Valérie est avec nous au 32-16. Bonjour Valérie.
Oui, bonjour les GG.
Vous nous appelez des Alpes-Maritimes. Bonjour. Je vous laisse avec David Lisnard.
Voilà, moi je suis de Fémenade, monsieur Lisnard, bonjour.
Bonjour madame.
Et mon mari travaille à Cannes, donc on voit et on a pu voir ce que monsieur Lisnard a fait dans sa ville. Donc je suis
en bien ou en mal, c'est pas moi qui ai demandé d'appeler.
Je vous suis depuis longtemps et ça fait longtemps que j'espère quelqu'un comme vous justement au niveau des LR. Bon, vous les avez quittés, je peux vous comprendre. Moi, j'ai deux questions très simples. Si vous arriviez au bout de votre projet et si effectivement vous pouviez vous présenter à la présidentielle, malgré votre micro-parti Nouvelle Énergie, comment vous allez financer un tel coup? Parce qu'on sait qu'une présidentielle, ça coûte horriblement cher.
Une bonne question.
Si vous n'arrivez pas jusqu'au bout, je vous le souhaite pas, est-ce que vous allez vous rallier à un futur candidat potentiellement de droite qui arriverait à la tête? Et dernière question, est-ce que vous accepteriez un Marocain de ministre ou de premier ministre si c'était quelqu'un de droite à la tête, y compris le RN, et qu'on vous proposait ces postes-là? Voilà.
Merci madame. Donc, Nouvelle Énergie aujourd'hui, et c'est un vrai chiffre, hein, je ne mens que par omission, donc je ne mens pas. Donc à 15 000 adhérents, c'est très faible à l'échelle d'un pays, mais c'est trois fois Renaissance. Voilà. Et il y a une dynamique, et notamment j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi, ce que j'appelle les orphelins de la droite, qui étaient partis soit plus à droite, soit chez Emmanuel Macron, et qui se sont rendus compte qu'il était très étatiste et très conformiste en réalité. Mais effectivement, et ensuite, c'est la dynamique qui doit amener le financement. Mais aujourd'hui, et ces données-là sont publiques, vous verrez que par rapport à d'autres, il y a plus de moyens. Deux, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. La deuxième question, pardonnez-moi, quelle était-elle? J'ai un trou de mémoire.
Alors, le financement.
Le financement, je viens de répondre. Voilà.
Alors, le financement, si jamais
vous perdez, est-ce que vous accepterez le poste de ministre?
Alors, je ne.
Parce que je crois que Macron ne vous a jamais proposé.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Ah ben en tout cas
ça
n'a pas été divulgué quoi.
Ça a été évoqué, ça a été dit, ça a été publié.
Si, mais vous êtes toujours refusé. Voilà. Et sirène macroniste.
Oui, je l'ai dit publiquement.
Pourquoi vous et pas certains de vos amis?
Non, mais parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut comprendre la psychologie des gens. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est je me suis organisé ma vie pour ça. Je viens d'un monde. J'étais fils de footballeur professionnel et de danseuse étoile, reconverti dans le commerce. J'ai eu des commerces. Ce que j'aime, c'est décider, c'est être patron. Voilà, je ne veux pas être hypocrite. Et un poste de ministre, c'est magnifique si vous pouvez décider de choses.
C'est ça.
Or, aujourd'hui, vous ne décidez de rien. Et très objectivement, et ce n'est pas une vue de l'esprit et ceux qui me savent vivre, je me fous de l'image sociale. Je ne cherche pas des points retraite. Je suis indépendant dans ma vie et je resterai indépendant. Donc, si demain, j'avais tout d'un coup une révélation d'une personnalité qui est un président et que je trouve formidable, servir le pays, c'est magnifique. Mais si j'ai décidé d'y aller, moi, avec un peu d'insolence, c'est parce que je ne me retrouve pas dans la proposition politique.
Allez, Jérôme, parce que c'est ton retour.
Vous avez parlé de la santé tout à l'heure.
Oui.
Vous avez cité l'hôpital. Vous êtes un libéral.
Oui.
Vous allez sortir, un précis, vous avez dit sur la santé en mai.
Dans un mois.
J'espère que vous allez mettre du libéralisme là-dedans. C'est-à-dire que ça fait des années, nous sommes des médecins libéraux, ça fait des années qu'on nous confond avec des médecins hospitaliers, ça fait des années qu'on veut transformer la médecine libérale en médecine hospitalière, ça suffit. Faites-nous confiance et libéralisez tout ça.
Oui, vous avez raison.
Faites confiance à Jean-Marc.
Je pense que vous ne serez pas déçus parce que j'ai publié. Et d'ailleurs, si l'hôpital est devenu un goulot d'étranglement, c'est parce qu'on a flingué la médecine libérale et qu'on a, hospitalo-centré, comme on dit, toute la politique de santé et surtout qu'on mène pas une vraie politique de santé, on mène qu'une politique du soin. Et ça, c'est encore une autre question.
Voilà. Merci David Lisnard, merci d'être venu à la table des grandes gueules. Dans un instant, on va revenir sur le piratage du site de l'ANTS. Vous savez, c'est les données de identité, etc. de tous les Français. Ça a été piraté, le ministère de l'Intérieur piraté. C'est pas très rassurant. L'État est-il encore capable de nous protéger et de protéger nos propres données numériques? On va en parler ensemble dans les grandes gueules. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Retour des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Sandrine Pégan, l'avocate, oui, l'agriculteur Didier Giraud et le docteur Jérôme Marty. On va revenir quand même sur cette fuite de données plutôt inquiétante. C'est carrément le portail ANTS, c'est-à-dire le portail qui gère nos cartes d'identité et nos passeports au ministère de l'Intérieur, qui a été piraté. On a appris hier que ce portail avait été visé par une attaque informatique le 15 avril dernier. Le ministère de l'Intérieur précise que des données à caractère personnel sont concernées, notamment les noms et prénoms, l'adresse électronique ou la date de naissance de plusieurs usagers. Il y aurait 19 millions de données qui auraient été ainsi piraté, c'est donc une nouvelle cyberattaque d'ampleur. Alors on s'est dit, bon, bah c'est super, on confie donc à l'État, oui, au ministère de l'Intérieur, nos données, et l'État n'est pas capable de les protéger. Est-ce que ça vous inquiète dans ce monde qui est de plus en plus numérique, dématérialisé, où désormais, effectivement, bah on fait tout par Internet, et on a tout sur notre smartphone, on a quasiment plus rien de matériel, Jean Marty?
Bah, c'est une
constante. Alors les données de santé, n'en parlons pas.
C'est la société qu'on vit. Je rappelle que les dernières grèves de médecins étaient en partie dues au fait qu'on voulait nous obliger, contre une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 euros, de renseigner systématiquement le dossier médical partagé, c'est-à-dire ce que vous appelez, vous, mon espace santé. On nous obligeait à le faire. Et nous, on a fait grève en disant on ne veut pas être, en quelque sorte, responsable de l'évasion des données des patients et de la rupture du secret médical. On veut bien le faire de façon volontaire, mais nous obliger, ça nous amènera peut-être à être responsable de ça. Parce que l'État nous disait, mais non, c'est inviolable.
Oui, à chaque fois, il dit ça.
Et puis, à chaque fois, il dit ça, ils se font pirater. Parce que c'est comme ça, parce que les pirates, manifestement, malheureusement, ont toujours 10 coups d'avance. Quoi. Et
Le problème, c'est que les données qui ont été dérobées peuvent être utilisées maintenant par des pirates pour mener des escroqueries.
Bien sûr.
Vis-à-vis des personnes concernées. Parce que quand on a tes coordonnées, on peut ensuite monter des coups fumeux pour essayer de te récupérer ta carte bancaire, etc.
Du coup, ça va favoriser le vol d'identité, puisque c'est une identité, parce que d'ailleurs j'ai une proposition à faire. On va plus parler d'ANTS, on va parler d'ANT, quoi, parce que ça veut dire sécuriser, le S de titre sécurisé. Donc l'ANT elle récupère d'abord tes données, donc ça veut dire qu'avec les 19 millions qui ont été volés, tu peux créer des identités. Ouais. Donc avec une identité, tu peux faire plein de choses. Ça me gêne, et c'est surtout, ça me rend fou, ces trucs-là, en fait. Parce que dans ces sites-là, enfin, il y a pas longtemps, j'ai fait ma demande pour renouveler mon permis poids lourd, c'est tous les 5 ans. C'est un espèce de site débile à la con, là, mais qui me rend débile sur le fait que il faut créer un mot de passe, machin, qui change tous les 3 semaines, avec des caractères spéciaux, des trucs, t'as toujours oublié le mot de passe. Enfin, le truc, il est ingérable. On parlait de surcharge administrative, mais tous ces sites-là, avec leur sécurité, le machin, ça te rend complètement dingue. Et ce qu'on se rend compte, c'est que celui qui devrait être le plus sécurisé, qui collecte tes identifiants et tes identités, eh ben c'est celui-là qui a été craqué. Donc à un moment donné, je me demande à quoi ça sert, et je me défie de plus en plus de ce tout numérique quand même.
Maître Pégan, vous l'avocate, qu'en pensez-vous ?
Moi, je trouve qu'il y a deux problèmes dans cette situation. C'est que déjà, on va prendre l'origine même de la cyberattaque. C'est-à-dire qu'en fait, il y a c'est certainement quelqu'un qui était dans cette société publique et qui a cliqué sur un mail qu'elle a dû recevoir et sur lequel elle n'aurait pas dû. Donc le problème à la base, c'est un problème de formation des agents. Oui. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas formés à détecter, donc tu sais, tu es là, t'as l'agent, il est là, il prend, t'as une secrétaire, la pauvre, on lui en veut pas. Mais bon, mine de rien, si à la base elle avait été formée, elle aurait peut-être pu détecter le fait que ce mail-là, il fallait pas qu'elle y réponde, il fallait peut-être pas qu'elle clique dessus. Puisque donc, je vous rappelle que la France est quand même le pays le plus cyber-attaqué de l'Europe. Quand même. Donc si c'est une erreur humaine,
parce qu'on n'est pas protégé ou parce qu'on n'est pas formé?
Parce que moi je pense qu'on n'est pas formé. Je pense qu'on n'est pas formé. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a une responsabilité de l'État, puisque donc là c'est quand même une fuite de données. Rappelez-vous que c'était quoi, en janvier 2026, où il y avait France Travail qui a été sanctionnée par justement par la CNIL. Elle a eu une amende de 5 millions d'euros, mais en fait c'est quoi pour nous à la fin? C'est nous, la double peine, parce que c'est l'État qui va payer.
C'est mais nous c'est qui perdons les, ben données, voilà, les données.
Alors, ce qu'on nous dit, c'est surveillez vos mails dans les prochains jours.
Oui.
Attention à des mails curieux qui vous demanderaient vos coordonnées bancaires, etc., des SMS. Voilà, donc on en est là. C'est vrai qu'en plus, on en reçoit tout le temps. Moi, je ne sais pas si c'est vous, mais moi, je passe mon temps à recevoir.
Il y a un numéro pour les...
Alors, des colis qui doivent arriver, mais il faut que j'aille sur un site, que je donne mes coordonnées bancaires. Enfin, y a,
et les personnes âgées, tu ne crois pas qu'elles se font avoir comme
ça? On peut se faire arnaquer tout le temps.
Dans le monde de la santé, on est responsable, nous, de la sécurisation de nos données, notamment en établissement de santé. Donc, on a des formations. C'est excessivement cher, les mises à niveau, etc. Et si on se fait pirater, on est responsable et on paye
la fuite.
Donc on va payer le ransom, c'est-à-dire la rançon que va demander celui qui a piraté, et on va payer l'État parce qu'on s'est fait pirater.
Ah oui.
C'est toi qui es responsable de l'évasion des données.
Parce qu'il a été piraté, peut attaquer, quoi.
Oui, mais attends,
et tu peux pas. Imagine-toi que dans une grande entreprise, il y a un hôpital ou une clinique, c'est une grande entreprise, tu dois empêcher toute intrusion de l'extérieur dans tes données, c'est-à-dire que tu ne dois surtout pas autoriser quelqu'un à amener une clé USB à la brancher sur un ordinateur de la boîte.
Oui, mais pardon, pourquoi
Sandrine, moi j'ai une question, est-ce que demain je me fais pirater mes données via ce piratage-là, est-ce que je peux me retourner contre l'État?
Tu peux te retourner
dans le préjudice que j'aurais eu derrière, est-ce que je peux me retourner?
Surtout que c'est pas la première fois qu'un service public se fait ainsi pirater. Souvenez-vous, France Travail s'était fait voler plus de 30 millions de données de personnes inscrites pendant des années. Et en plus, on l'a appris longtemps après. C'est-à-dire qu'on n'a même pas l'information. Là, c'est pareil. C'est arrivé le 15 avril.
Ils ont dit qu'ils enverraient un mail aux gens concernés, là.
Mais l'État est responsable de la protection des données qu'on lui confie. Moi, je suis désolé.
Oui, mais on à un moment donné,
je trouve que Monsieur Nunes déjà devrait s'excuser. Laurent Nunes, ministre de l'Intérieur, devrait venir devant les caméras en disant "Écoutez, au nom de mon service, de mon ministère, je m'excuse. On n'a pas réussi à protéger vos données. On va les renforcer.
On n'est pas au niveau.
Qu'est-ce qui s'est passé? On n'est pas au niveau. Pourquoi on n'est pas au niveau? Non, mais je veux dire la transparence. Cette information, elle est donnée et le gouvernement, finalement, s'est circulé, rien à voir. Moi, pardon, ça me choque.
Si une entreprise
privée était piratée ainsi, le patron de l'entreprise, bien sûr, communiquerait. Il y aurait une communication de crise et on s'engagerait à sécuriser davantage, à réparer les préjudices. Là, c'est circulé, il n'y a rien à voir.
Ça me rappelle le cambriolage du Louvre par des bras cassés. C'est la même chose, c'est l'État aussi. Et tu y rentres par la fenêtre, quoi. Et tu as l'impression que cette zone-là, qui est vraiment la zone qui doit normalement être la plus protégée, tu peux y rentrer par la fenêtre.
Non, mais des excuses de Nouillet, ça ne changerait rien. Regarde, pense un peu aux victimes. Et justement, Didier, tu me disais, si j'avais été victime, comment j'aurais pu me retourner? Mais tu te rends compte, les tentatives d'usurpation d'identité, si ce n'est pas après usurper, tout ce qui est du phishing ciblé, moi, ça te met dans une mer de noix. Et après, quand tu veux te retourner contre l'État ou même contre la société privée qui a été usurpée ou où les données ont été fuitées, c'est une catastrophe. La procédure, elle est tellement longue.
En
attendant, sur ton compte, tu as des ATD.
Maître Pégan, je suis désolé, mais l'État est dans l'obligation déjà d'informer les personnes qui sont concernées.
D'accord, mais très bien, alors t'es informé et après.
Non, mais les gens sont pas informés. C'est là que tu dis.
Ah oui,
c'est
oui, oui.
C'est-à-dire qu'ils ne reçoivent.
J'ai lu qu'ils enverraient un mail.
Ils sont censés recevoir un mail.
Moi, j'ai lu aussi, c'est vrai.
Eh bien, on sait.
Derrière ce mail, c'est les pirates qui vont l'envoyer.
J'écoutais sur RMC un avocat qui disait, malheureusement, souvent, c'est pas le cas. C'est-à-dire, en plus, les gens sont même pas informés qu'ils sont concernés par ce piratage.
Ils annoncent qu'ils vont informer.
Même ce niveau d'information n'est pas apporté.
Comme t'es pas informé, tu dis, c'est pas moi.
Non, mais là, on va.
On va voir si là, ils vont le faire, mais bon.
Visiblement, dans les fraudes précédentes, les piratages précédents, ça n'a pas été fait, en tout cas, convenablement. C'est-à-dire que c'est.
Ok, mais t'es informé, d'accord, mais ce qui veut dire qu'après, derrière, la victime, elle est laissée toute seule. Elle se débrouille, c'est elle qui va payer l'avocat, c'est elle qui va devoir à chaque fois subir les ATD sur le compte, bien sûr.
Oui, mais une fois que t'es informé, tu es vigilant. C'est-à-dire que tu regardes si tu n'es pas en train de recevoir des mails un peu bizarres.
Ouais, mais attends, Olivier. en dehors du fait de vol de coordonnées.
C'est vrai que tu peux pas changer
ton
nom.
Quand tu vas créer une carte d'identité avec moi, je suis le pirate. Je vais créer des cartes d'identité au nom d'Olivier Truchot et je les vends. Et je les vends à des bandits.
Très cher.
À un moment donné, on n'a peut-être pas
sans
encore vu. Ça sera quoi les conséquences de ce genre de piratage, quoi? Parce que toi, tu évalues le risque sur le fait de vol de coordonnées bancaires. Certainement qu'ils vont essayer de voler des coordonnées bancaires.
Non, bah, via ton nom.
Oui, mais s'ils créent de fausses identités.
Oui.
Il peut y avoir des conséquences qu'on n'a pas vu arriver encore. Toutes les semaines, on écoute à la radio, à la télé, des gens qui se sont fait piquer leur plaque d'immatriculation et qui reçoivent des tonnes de PV dans des endroits où ils n'ont jamais été. Je pense que avec le fait de pouvoir faire des cartes d'identité, des passeports et des permis de conduire sous des identités volées, on n'a peut-être pas encore vu ça sera quoi les conséquences de ce piratage.
Nous sommes avec Laurent qui nous appelle au 3216 depuis le Puy-en-Velay en Haute-Loire. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Vous voulez intervenir pourquoi, Laurent,
Okay City?
En fait, il n'y a pas que les mails, il y a les courriers aussi. Une mésaventure qui est arrivée à ma fille la semaine dernière. Elle a créé, donc elle vient de créer son entreprise. Mmh. Donc, elle a fait tout le nécessaire par rapport à l'INSEE. Le lendemain, donc, quelqu'un l'a rappelé pour être sûr qu'elle ait bien choisi le bon code NAF, etc. Et dans les 5-6 jours qui ont suivi, elle a reçu un courrier papier, avec le logo du gouvernement. Enfin, tout est parfaitement très bien fait. Oui. Lui demandant donc de finaliser, enfin, pour finaliser son inscription, de verser la somme de 89 euros.
Ouais.
Et elle est jeune, elle se méfie de tout ça, et pourtant, elle s'est fait avoir comme une débutante.
C'est-à-dire elle a payé.
Alors, je ne sais pas si je peux citer le nom de la banque.
Allez-y.
En tout cas, elle est au Crédit Agricole. Et immédiatement, dès que le règlement a été fait, en fait, sa carte s'est retrouvée verrouillée. Elle a reçu un SMS comme quoi elle est en train de faire un règlement sur un site frauduleux. Donc, elle a bloqué la carte, etc. On a fait le nécessaire pour tuer la carte à distance. Mais voilà, c'est
aujourd'hui. Du coup, sa banque a fait le job.
Ça veut dire que la banque, elle avait l'habitude de.
Le système mis en place par la banque a fonctionné.
Exactement. Le site avait déjà été signalé, a priori, comme frauduleux. Mais ça, en fait, c'est un courrier qu'elle a reçu à la maison. Et dans les 4 ou 5 jours après son inscription.
Sauf que le remboursement, il se fait sous 6 semaines. J'ai eu ça aussi.
Et moi qui ai passé il n'y a pas longtemps par le registre du commerce, je peux vous dire que ce ne sera pas le dernier. Il y en aura d'autres.
Malheureusement, voilà. Donc, les mails, c'est sûr, maintenant, on est peut-être un peu plus vigilant. Mais ma fille était vraiment à 100 lieux.
Oui, mais on peut se faire avoir facilement. Après, on s'en veut.
Le système a bien fonctionné, mais on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. C'est un courrier papier.
Bien sûr.
Les fausses convocations en justice, vous avez jamais reçu ça pour pédophilie ou ce genre de choses? Du coup, après, moi, j'ai des clients qui m'appellent et qui me disent « Oh, maître, qu'est-ce que c'est ça? Je dois y répondre. » Et donc, vous n'avez pas reçu?
Non, jamais.
C'était il y a encore 6 mois.
On en avait reçu une, comme quoi on avait utilisé un site pornographique qu'il fallait pas, etc. Mais voilà, c'est sûr que
donc, du coup,
on est en panique. Quoi.
Vous êtes sûr que c'était pas vous, Laurent?
Non, c'était pas moi.
Si vous êtes un avocat,
imagine dans la famille. Après,
t'es
inquiété, t'es anxieux.
Bien sûr, ça crée de l'anxiété. Pourquoi t'es convoqué? Quand tu reçois un papier administratif, déjà t'es anxieux en France. Tu dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai pas encore payé? Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute?
Ils m'ont rattrapé.
Quand c'est grave, les gendarmes, ils viennent te chercher.
Les policiers.
Bon, mais merci Laurent pour cette anecdote qui s'est bien terminée, puisque finalement, votre fille n'a pas perdu d'argent.
Aussi, même sur les courriers papier.
Exactement, il faut être très vigilant. Merci Laurent. On a posé la question, l'État incapable de protéger vos données sur le compte X des grandes gueules. Vous avez répondu quoi? Oui, non, oui, tiens, c'est étonnant. Oui à 89,8%. Dans un instant, 500 000 travailleurs sans papier vont être régularisés en Espagne. Est-ce que c'est un modèle à fuir ou au contraire à suivre? A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.